Are you really ready?
You can't be serious! You cannot be serious!
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Oxytennis, votre rendez-vous mensuel de tennis en Haute-Garonne et tout autour sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. Nous dédions cette émission à vous, mesdames, maman, débutante, confirmée, enseignante, dirigeante, bénévole, épouse, patiente, le tennis n'existerait pas sans vous. Si ces messieurs organisent leur premier tournoi de tennis à Wimbledon en juin 1877, c'est pour financer les réparations d'un rouleau agricole nécessaire à l'entretien des cours. Le tournoi dégage à bénéfice de 10 livres et le rouleau fut remis en état. Une coupe, offerte par une militante féministe, irrite la misogynie de ces messieurs qui décident donc de jouer entre eux pour cette première édition. Bien histoire de mec, ça. Il va falloir attendre 1884 pour que le comité d'organisation du All England Lawn Tennis and Croquet Club autorise la participation des dames. L'histoire retient donc que le tout premier tournoi féminin a eu lieu à Dublin, en juin 1879, et c'est une Irlandaise de 14 ans, May Langrish, qui inscrit son nom au panthéon du tennis. En France, il faut attendre 1897 pour que le championnat de France international de tennis couronne Adine Masson, qui devient ainsi la première joueuse à emporter ce qui deviendra le tournoi de Roland-Garros en 1928. C'est une Française, une Paloise, Marguerite Brockedis, qui devient la première championne olympique de tennis à Stockholm en 1912. 8 ans plus tard, Suzanne Lenglen est médaillée d'or à Anvers. En 1924, le tennis disparaît des Jeux olympiques d'été pour y revenir en 1988, avec une nette domination des Américaines, 4 médailles d'or en simple et 6 en double. L'histoire du tennis féminin est jalonnée d'innombrables anecdotes d'émancipation et de revendications. Suzanne Lenglen impose des tenues colorées, la jupe plissée et courte au-dessus du genou. Dorothea Douglas Chambers fut la première maman championne en gagnant l'Open de Grande-Bretagne de 1914. Althea Gibson, première joueuse afro-américaine à remporter Wimbledon en 1957. En 1973, Billie Jean King colle 3-7 à 0 à Bobby Riggs, un machiste ancien numéro 1 mondial qui affirmait que le tennis féminin était inférieur à celui pratiqué par les hommes. Business is business, elle empoche 100 000 dollars au passage. La même année, elle crée la WTA pour améliorer les gains distribués dans les tournois féminins où les dames ne percevaient que 10% des dotations accordées aux messieurs. Le tennis reste encore un sport trop machiste. N'oublions pas non plus les commentaires en dessous de tout au sujet de Martina Navratilova et Amélie Mauresmo. En termes de palmarès, il y a bien une réelle suprématie du tennis féminin vis-à-vis des messieurs. Si Jimmy Connors détient toujours le nombre de tournois remportés avec 109 titres en simple, il est toujours largement devancé par Martina Navratilova, 167 titres au compteur. Roy Emerson est le plus titré en Grand Chelem en totalisant 28 victoires en simple, double et double mixte. Il est très largement devancé par 10 dames avec sur le podium Margaret Smith-Court, 64 titres, Martina Navratilova, 59, Billie Jean King et Serena Williams, 39. En précocité, les jeunes filles s'imposent également. À 14 ans, Tracy Austin est la plus jeune vainqueur d'un tournoi du circuit WTA. Marie-Jo Fernandez est la plus jeune gagnante à 13 ans d'un match sur le circuit professionnel. En grand chelem, c'est Martin Hingis, 16 ans, qui est sacré à Wimbledon. Dès 13 ans, Steffi Graf remporte son premier match en grand chelem et remporte les 4 tournois majeurs à 19 ans. Alors quand j'entends désigner un tel ou un tel plus grand joueur de tous les temps, je m'interroge. Andy Murray, lors d'une récente interview, a souligné que le tennis est le plus performant en termes d'égalité, de gains et de parité entre joueurs et joueuses concurrents dans les mêmes épreuves. À voir. Là aussi, j'ai un doute. Nous ne pouvons pas parler du tennis féminin sans un témoignage d'une personne de terrain, Marion Chave. Elle nous évoque son itinéraire de professeur de tennis et les larges responsabilités qu'elle occupe au sein du tennis club de Saint-Gaudens.
Bonjour Marion.
Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Radio Galaxy qui est venue vers moi pour un interview. Et donc, merci pour cet entretien.
Bien écoute, nous te remercions également Marion de contribuer au développement de notre émission. Alors Marion, quel est ton itinéraire professionnel avant de rejoindre le Comminges ?
Alors, depuis 1996, j'enseigne le tennis. J'ai commencé l'enseignement dans ma région natale, donc la Drôme, à Romans-sur-Isère, et également dans quelques clubs environnants. Ensuite, je suis partie 10 ans sur Lyon, où j'ai travaillé au tennis club municipal du 5e, un club avec plus de 1000 adhérents. J'ai fait mes armes là-bas. Et puis en 2013, je suis partie dans les Pyrénées-Atlantiques à Lons, à côté de Pau. J'ai beaucoup apprécié la région également. Dans ce même temps, j'ai eu une opportunité sur Grenoble et j'ai travaillé donc à la Ligue Assessin. Et en fait, je suis restée que quelques mois là-bas. Le Sud-Ouest me manquait. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Saint-Gaudens, puisqu'il proposait un poste. Donc j'y suis depuis le 1er juin 2017.
Dans un article d'août 2020, la Dépêche du Midi évoque ton engagement pour le développement du tennis. Quelles sont tes responsabilités au sein du tennis club de Saint-Gaudens ?
Je suis arrivée au club à Saint-Gaudens, comme je le disais précédemment, donc le 1er juin 2017. On était trois enseignants. J'ai commencé avec tout ce qui était cours école de tennis, les cours adultes. J'ai été supervisée par mon collègue qui était directeur sportif. Il est parti il y a 2 ans, donc je suis maintenant responsable de toute la partie cours avec 2 autres enseignants du club. Et je m'occupe également de tout l'administratif du club, des inscriptions au club, le planning des cours, tout ce qui est rencontre par équipe, les diverses animations que l'on peut proposer tout au long de l'année. J'essaye de faire connaître le club et puis tout ce qu'on y propose.
Dans ton enseignement général, y a-t-il des spécificités pédagogiques, filles et garçons ? Et à quel moment il y a une séparation entre l'enseignement du tennis ?
Dans l'enseignement que je propose, il y a une chose que je fais très attention, c'est de jamais isoler des filles au milieu de groupes de garçons ou vice-versa. Les garçons seuls, parce que ça peut arriver que sur certaines demandes, on peut avoir une fille et que des garçons. Donc ça, j'évite pour que l'enfant se sente bien au sein de son groupe. Par rapport à l'enseignement pour ces petites filles, ou plus jeunes, en tout cas jusqu'aux ados, adultes, souvent les filles sont plus sujettes au stress, elles sont sensibles, souvent elles sont appliquées, elles ont une grande motivation dans le fait d'apprendre. Et donc on essaie dans notre enseignement, pas forcément de toujours faire des oppositions sous forme de match, mais plus de concours d'échange, de se faire des passes pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'échec. Ce qui est important pour l'enseignant qui est en charge du groupe, c'est qu'il respecte l'équité dans l'attention portée à chacune de ses joueuses et qu'il n'y ait pas de préférence ni d'indifférence vis-à-vis des autres joueuses.
Quelle est la situation des recompenses de jeunes dont tu es l'animatrice dans le secteur Comminges ?
Il a été mis en place par le comité 31 des plateaux Galaxy Team, donc pour des enfants de 6 à 8 ans, de niveau rouge. Donc dans chaque secteur Il y a des clubs qui se proposent d'organiser une après-midi jeu et match. Au total, là, pour cette année, il y a 6 dates qui ont été programmées. Dans le secteur commun dont je suis responsable, il y a Martre-Tolosane, Boussens, Luchon, Saint-Martory, Le Fousseré et Saint-Gaudens qui en organisent. Malheureusement, à ce jour, il y a un seul plateau qui a pu avoir lieu. Les autres ont été soit annulés, soit reportés. Le prochain, normalement, pour l'instant, il est maintenu et il est programmé donc le samedi 10 avril sur les clubs de Saint-Martory et Luchon pour respecter les gestes barrières, les conditions. Les enfants seront répartis sur ces deux clubs. C'est vrai que on est dans une année un peu particulière et on espère tous que ça va évoluer positivement pour qu'on puisse reprendre nos activités pleinement. Parce que là, pour la majorité des clubs, c'est très compliqué. Ouais.
Marion, merci beaucoup. Je souhaite une très belle journée.
Merci.
Au revoir,
merci
Marion.
Beaucoup en tout cas à toute l'équipe de Radio Galaxy.
Régional, toujours aucune perspective favorable à la reprise des tournois et des compétitions par équipe. Le tennis amateur s'oriente très vraisemblablement vers une nouvelle saison blanche. Les pouvoirs publics viennent de relancer de nombreux dispositifs d'aide auxquels peuvent prétendre les clubs, y compris avec le plan de soutien et de relance de la FFT. Une très bonne nouvelle quand même, le tournoi féminin de Saint-Gaudens, doté de 60 000 $, est programmé du 10 au 16 mai par l'ITF. Les contraintes sanitaires contraindront très certainement les organisateurs à se priver de public. Tout début avril, le circuit pro va débuter la saison sur terre battue, qui va se conclure à Roland-Garros fin mai. 21 ans plus tard, aurons-nous une Française pour succéder à Mary Pierce? Place au billet de Vincent, notre coach, qui y va également de son admiration pour le tennis féminin et nous livre son excellente analyse. Salut Vincent.
Bonjour à tous, et je dirais même plus bonjour à toutes. En effet, pour ce nouveau thème, vous serez à l'honneur, mesdames, puisque nous allons aborder le tennis féminin. Commençons par un petit point rapide sur l'historique. La pratique du tennis par les femmes a débuté officiellement par le tournoi de Dublin en 1879, puis le double féminin est apparu, lui, en 1920, aux Jeux Olympiques d'Anvers. La première star du tennis sur le plan international fut une Française en la personne de Suzanne Lenglen. Mais celle qui jouera un rôle très important par la suite sera l'américaine Billie Jean King, entre les années 60 et 80, une des plus grandes joueuses de tous les temps. Elle deviendra la première présidente de l'association des joueuses de tennis en tant que fondatrice de la WTA, association qui continue de gérer aujourd'hui le circuit professionnel féminin. Les apparitions de styles de jeu et de personnalités ont commencé notamment pendant la période de la dualité entre les célèbres américaines, Chris Evert et Martina Navratilova, jusqu'à la fin des années 80. Par la suite, l'allemande Steffi Graf est devenue la seule à avoir obtenu les 6 titres majeurs en même temps, les 4 Grands Chelems, le Masters et les JO. Son coup droit puissant était son point fort, et ce fut le début d'un jeu féminin évoluant vers la percussion, avec des frappes de balles plus agressives. Certaines joueuses sont encore le symbole de cette accélération du jeu. Je pense notamment à Monica Seles ou les sœurs Williams, aussi bien en coup droit qu'en revers. Le service devient également un coup fort chez les femmes à l'heure actuelle, alors qu'il ne l'a jamais vraiment été pendant de longues années. Concernant justement l'évolution du jeu dans le tennis féminin, nous sommes restés essentiellement sur les échanges du fond de court, avec quelques changements de rythme. Les frappes de balles sont comme chez les hommes devenues de plus en plus rapides et puissantes, mais peu de joueuses ont axé leur jeu vers la montée au filet. Pour ne citer qu'elles, Nathalie Tauzia, Justine Hénin ou Amélie Mauresmo en font partie. Et puisque l'on parle de certaines Françaises, autant mettre en avant leur performance aussi bien sur le plan individuel qu'en équipe, avec 5 victoires en Grand Chelem depuis le début de l'ère Open, 2 pour Mary Pierce, 2 pour Amélie Mauresmo et 1 pour Marion Bartoli. En équipe de France, 3 victoires pour 6 finales disputées en Fed Cup, ce qui représente un plus gros palmarès que chez les hommes, il faut bien l'avouer. Sur un plan général, nous traversons actuellement une période assez peu commune, avec beaucoup de changements à la tête du classement mondial féminin, ce qui n'était pas forcément le cas pendant de longues périodes dans le passé, avec la suprématie de certaines joueuses emblématiques qui dominèrent leur sujet sur plusieurs années. C'est d'ailleurs assez frappant de voir la différence entre cette situation dans le tennis féminin et la situation du classement mondial masculin où l'on retrouve assez souvent les favoris en finale des Grands Chelems. et donc ses meilleurs joueurs également bien ancrés à leur place en haut du classement ATP. S'il fallait donner une explication à ce phénomène actuel dans le tennis féminin, je dirais que c'est sûrement dû à la maîtrise des émotions qui semble être mise à mal au fil du temps et de l'évolution du jeu vers une exposition médiatique de plus en plus importante. Il est assez évident que l'évolution du jeu, le mental et l'environnement jouent un rôle primordial dans le cadre de la performance. Je n'y reviens pas suite à mes trois interventions précédentes sur chacun de ces thèmes. Et lorsque l'on fait le lien entre ces évolutions et le constat actuel dans le tennis féminin, aussi bien que dans le tennis masculin, il en ressort une évidence. Chez les hommes, un petit noyau de joueurs exceptionnellement préparés mentalement prennent le dessus de manière assez constante pour se retrouver régulièrement en finale des grands événements. Chez les femmes, nous constatons depuis la baisse de régime de Serena Williams une certaine difficulté pour les meilleurs à reproduire leurs performances dans les grands moments et donc à tout simplement confirmer leur supériorité. Ce qui naturellement permet aux jeunes joueuses ambitieuses et sans complexe de s'imposer sur des grands événements, comme nous l'avons constaté ces dernières années, avec Yelena Ostapenko, Bianca Andreescu, Sofia Kenin ou Iga Swiatek par exemple. Il y a sûrement un travail plus important à effectuer dans l'encadrement de celles qui ont le potentiel pour s'imposer plus souvent, et ce travail réside certainement sur leurs ambitions au niveau de leur carrière, ou tout simplement sur leurs intentions d'affirmer leur style de jeu pour faire la différence. Sur un plan pédagogique, on dira que l'intention prime sur l'action. Ce sera très exactement le thème de ma prochaine intervention début mai. En votre compagnie, je l'espère. Portez-vous bien.
Pas de gagnant pour notre quiz tennis de mars. La réponse était effectivement assez difficile à trouver. Mais en fouillant sur internet, nous apprenons que l'Open d'Australie 1981 débute le 30 novembre. De fortes intempéries obligent les organisateurs à déplacer la finale au 3 janvier 1982. Et c'est le Sud-Africain Johan Kriek qui décroche le titre. En 1982, le tournoi se déroule sans problème et le 13 décembre, Johan Kriek remporte une fois de plus la finale. Seconde originalité, il bat à chaque fois le même adversaire en finale, Steve Denton. Prêt pour un nouveau quiz tennis ? Voici l'indice. Quelle joueuse détient le record de victoire en simple dans le même tournoi ? Qui ? Combien de victoires et où ? Je redonne l'indice. Quelle joueuse détient le record de victoires en simple dans le même tournoi ? Qui ? Combien de victoires et où ? Vous pensez avoir la bonne réponse ? Pour jouer, c'est très simple. Allez sur le site radiogalaxy31.com, cliquez sur l'image Occitennis pour donner votre réponse. La première personne à donner la bonne réponse se verra offrir un cadeau offert par notre partenaire Sport 2000 avec les magasins de Caser et Fonsorb. Toute l'équipe d'Occitennis vous donne rendez-vous pour la prochaine émission le samedi 8 mai, à la veille des premières rencontres du tournoi féminin de Saint-Gaudens, sous réserve de nouvelles contraintes sanitaires. Toujours sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. D'ici là, soyez prudents. Vous pouvez toujours réécouter cette émission en podcast sur la page Occitennis de radiogalaxy31.com.
Excusez-moi.
Oui.
Ça vous dirait de prendre un café ?
Je peux pas jouer tennis.
À très bientôt.
Jeu, set et match.